Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Babel Pongo Massimango pour les journaux.
Bonjour, nous parlerons dans ce journal de cet accident de circulation qui a fait 15 morts et plus de 50 blessés hier à Kinshasa. C'est encore un bilan provisoire. Nous allons faire le point sur la situation des blessés notamment. En Ituri, la série de consultations intra-communautaires s'est clôturée le week-end à Kambala et Pandroma dans le territoire de Djougou. Parmi les résolutions, le retrait des océans du Codeco de trois groupements de Mokambo dans Mahagi. Les femmes albinos lèvent la voix et dénoncent la discrimination dont elles sont souvent victimes sur le plan du travail, de l'éducation et du mariage. Nous en parlons avec notre invitée, Divine Faïda. Elle est de l'Organisation pour le bien-être des albinos du Congo, OBEAC. Ouvrons ce journal avec la suite de ce terrible accident de circulation d'hier dimanche sur l'avenue Bypass, menant vers l'université de Kinshasa. Selon le dernier bilan encore provisoire, il est fait état de 14 morts et une soixantaine de blessés. Grâce à Mzati, bonjour. Alors, vous vous trouvez présentement aux cliniques universitaires de Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe sur place?
Tout d'abord, Babel, au centre de santé Mubiala se trouvant à proximité du lieu du drame où nous avons commencé notre tour. Parmi les 16 blessés internés, on vient de libérer un garçon de 13 ans, nous affirme le médecin chef de centre. Ce dernier dit que les 15 autres sont en train d'être soignés, mais la grande difficulté, c'est que le centre manque de matériel nécessaire, notamment les scanners pour examiner les malades. Ce qui fait que les malades menacent de partir ailleurs. Aux cliniques universitaires où nous nous retrouvons en ce moment, en attendant l'information donnée par le médecin directeur, d'autres sources proches de l'hôpital nous parlent toujours des 14 décès jusque-là, mais une centaine de blessés. À la chirurgie où nous sommes passés, certains blessés sont dans un état critique, comme nous ont affirmé les infirmiers, et d'autres sont déjà maîtrisés.
Merci Grâce pour ces informations. Le gouvernement assure prendre en charge les victimes de cet accident survenu hier donc vers le triangle de l'avenue Bypass à Kinshasa. Selon le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, le bilan de l'accident reste encore de 15 morts, une trentaine de blessés répartis entre l'hôpital général de référence et les cliniques universitaires. Une commission est d'ailleurs mise en place pour gérer la situation. On écoute Jolino Makelele, joint par Jeff Ngoy.
Dès que l'information a été connue, le chef de l'État a instruit le Premier ministre de prendre toutes les dispositions pour qu'on arrive à une gestion efficace de ce drame. Et ce qui a conduit le Premier ministre à instruire à son tour le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, le ministre en charge de l'Action Humanitaire et le ministre de la Santé d'aller sur place s'enquérir la situation et chacun dans son domaine puisse mettre les moyens afin d'assurer une gestion raisonnable de ce accident. Et en ce sens, on a connu donc l'évacuation des personnes décédées aux cliniques universitaires de Kinshasa et au hôpital général de référence de Kinshasa, et inscrit de veiller à ce que toutes les conditions qui font que ces genres d'accidents se produisent ne soient plus les conditions laissées au hasard des citoyens. Il y a une commission qui est mise en place au niveau du Premier ministre qui va gérer et produire des recommandations par rapport à ça.
Cet accident est la conséquence de la complaisance observée dans l'opération de contrôle technique des véhicules dans la capitale. C'est Valemanga, expert en transport multimodal et sécurité routière, qui le dit. Il a également invité le gouvernement de la ville à prendre des dispositions dans le cadre de l'opération Kinbopeto pour évacuer tous les vendeurs qui occupent les trottoirs à travers la capitale. Valemanga est joint au téléphone par Daniel Tambinzoni.
La conséquence d'une complaisance en ce qui concerne donc ce contrôle-là technique se fait sentir. Il faudrait que nous soyons sérieux. Le contrôle technique qui, après avoir fait passer un véhicule au niveau de toutes les étapes, nous terminons par délivrer ce que nous appelons le certificat de contrôle technique. Mais ce document-là, c'est un document truandé, c'est un document de complaisance. Et ici, vraiment, j'en appelle encore aux autorités. Et surtout, le ministre provincial de transport, il faut y prendre soin. Mais aussi, le ministre national de transport devra jeter un coup d'œil parce que la vie de Congolais en dépend. Le contrôle technique, c'est aussi une sécurité. Regardez, on avait pratiquement étouffé la ville de Kinshasa dans le contrôle des documents ayant trait au certificat de contrôle technique. Mais voilà, aujourd'hui, nous avons des morts parce qu'il y a eu complaisance. Et aussi, il faudrait renforcer le nombre de centres de contrôle technique dans la ville de Kinshasa. Nous n'avons pas assez de centres de contrôle technique viables. Et pourquoi pas l'État doit avoir un centre de contrôle technique pilote qui répond aux normes actuelles de la technologie.
Et la vie dans nos prisons, on en parle encore sur Radio Kapi, qui ont détenu et mort ce week-end à la prison de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga. Pour la société civile locale qui livre cette information, ce prisonnier est mort de maladie faute d'une bonne prise en charge médicale. Sa mort est aussi confirmée par le directeur de cette maison carcérale. Pour ce dernier, les conditions de détention sont mauvaises. La prison de Kasumbalesa n'a pas d'infirmerie ni de produits pharmaceutiques. Les détenus y dorment à même le sol, ce qui favorise cette certaine maladie. Paulin Isuzo explique la situation au téléphone de Jean Gandou.
Nous avons des problèmes très sérieux de produits pharmaceutiques, de produits de première nécessité chez les prisonniers par exemple. Moi personnellement, avec la MONUSCO, nous avions prévu une salle comme une salle d'infirmerie. Bon, par rapport aux conditions carcérales, on avait essayé de mettre un humain, nous avions préféré de terminer d'abord la maison proprement dite, c'est-à-dire le bâtiment pénitentiaire. Là, on a achevé. Le mur, il n'y en a pas. Et ensuite, les prisonniers passent la nuit sous le pavement sans quelque chose. Il manque des mousses, il manque des couvertures. Avec ça, bon, il y a la pneumonie, il y a ceci, cela, des hernies, tout ça, bon. Ça ne manque pas ici chez moi. À l'intérieur de l'enceinte de la prison, il n'y a même pas d'eau. Je cherche l'eau à 500 mètres. Vraiment, les conditions carcérales aussi, ça me complique un peu.
Nous sommes en Ituri à présent. La série de consultations intracommunautaires s'est clôturée le week-end à Kambale, Pandroma, dans les territoires de Djougou. Parmi les résolutions issues de ces assises, il y a notamment le retrait des assaillants du groupe armé Kodeko de trois groupements de Mukambo en territoire de Mahagi, le renforcement de la présence des forces loyalistes dans certaines entités, ainsi que la mise en place de systèmes d'alerte pour signaler le mouvement des hommes armés. Ces consultations, dont l'objectif est la coexistence pacifique entre les peuples Alour et Lendou, ont bénéficié de l'appui de la MONUSCO. Isaac Raymond.
Trois problématiques ont été relevées au cours de ces consultations qui se sont déroulées successivement à Mahagi Centre, à Pandroma et à Kambala. Il s'agit entre la chefferie de Mukambo qui a déploré surtout l'occupation des trois groupements Are, Umbatsi, Musongwa par des assaillants venus de Walindu Piti en territoire de Djougou. Selon les organisateurs, ces hommes armés se seraient déjà retirés de ces zones grâce à l'implication des notables des secteurs de Walindu Piti. Une commission conjointe de vérification se rendra cette semaine sur place pour confirmer leur retrait. Les deux parties ont recommandé le déploiement des phares d'essai dans ces zones pour sécuriser la population. La deuxième problématique concerne la chefferie de Djoukote à son voisin de Walindu Piti, d'où proviendraient des assaillants pour commettre des exactions. Les deux parties ont convenu de mettre en place des systèmes d'alerte pour contrôler les mouvements des assaillants. La présence des phares d'essai est également renforcée pour éviter de nouvelles incursions et favoriser les retours des membres des deux communautés. La dernière problématique est un conflit de limites qui a dégénéré en violence entre la chefferie de Djoukote et Walindu Wati en territoire de Mahagi. Ce problème sera résolu par le gouvernement qui va définir les limites entre les deux entités. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
À Kananga, plus de 600 enfants sortis de la miliste, des déplacés internes et des enfants non accompagnés en situation difficile ont clôturé samedi une formation sur différents métiers. La formation financée par l'UNICEF avait pour but de les aider à se prendre en charge. Du détail avec André Kambala.
Cet appui concerne un total de 659 enfants, selon Béatrice Bilonda, chef de la division provinciale des affaires sociales. Durant 3 mois, chacun d'entre ces enfants a suivi une filière dans divers centres sociaux de Kananga. Les filles ont été plus initiées à la coupe et couture et à la fabrique de savon. Les garçons ont plus appris la menuiserie et la maçonnerie. Pour le chef de bureau de l'UNICEF Grand Kassai, la reconstruction psychosociale des enfants affectés par les conflits est un défi qui nécessite un accompagnement multisectoriel. Christine Narekabo encourage les enfants à ne point baisser les bras.
Chaque jour où vous vous êtes levé pour venir apprendre, acquérir des valeurs positives, vous avez certainement affronté parfois des moqueries, parfois le rejet et bien d'autres obstacles que vous avez dû surmonter. Aujourd'hui, grâce à cette expérience, vous avez compris le sens de l'adage populaire qui dit « Seules nos décisions et efforts personnels nous récompensent ».
La première phase de ce programme de reconstruction psychosociale a concerné 470 enfants. De Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
Dans la province éducationnelle du Kwilu-1, certains enseignants du service de contrôle et de paix, SECOP, chargés d'identifier les enseignants nouvelles unités, sont accusés de monier ce travail qui devait se faire gratuitement. Selon des témoignages recueillis, ces agents perçoivent des montants là de 14 000 à 25 000 francs congolais, voire plus. Cependant, les enseignants victimes de cette pratique craignent de la dénoncer par peur de représailles. Joseph Tantou, directeur adjoint du SECOP, les encourage à le faire pour que ceux qui se livrent à ce comportement soient sanctionnés. On écoute au micro d'Irène.
C'est vrai que nous aussi, nous avions appris que pendant ces contrôles, les enseignants sont tentés de payer 14 000, 20 000, 25 000. Là où ils ont tenté de faire les contrôles, quand nous nous passons pour demander, je ne sais pas s'ils ont peur de nous, ils ne veulent pas nous dire un peu la vérité, mais quand même, le rumeur circule. Mais il n'y a pas d'abord de preuve. C'est comme ça que nous avions demandé aux enseignants qui ont payé l'argent de nous dire la réalité pour chercher un peu à vérifier qui demandait, qui avait payé, quoi que vous avez payé. Ce sont des antivaleurs qu'on s'est tenté de refuser. Et ces valeur pour mettre ça en application, faut qu'il y ait quelqu'un qui dénonce. Votre parapluie, c'est les syndicats. Et nous sommes là pour eux. Ils sont obligés de venir nous donner des rapports, de nous donner des preuves que nous avons payé autant. Nous allons se porter garant de celui-là pour qu'il soit contrôlé et suivre un peu l'évolution du contrôle de cette école-là. Mais ils ont peur. Le contrôle n'est pas encore terminé. On est en train de continuer à contrôler. Là où on demande l'argent, qu'ils puissent venir dénoncer, de nous dire, nous serons obligés de prendre un peu la responsabilité.
Le directeur adjoint du SECOP rappelle qu'il n'y a pas de frais à payer pour le traitement des dossiers concernant la mécanisation d'une école ou d'un agent.
Actualité internationale.
Au Cameroun, 22 personnes ont été tuées, dont 14 enfants dans le nord-ouest anglophone, selon le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. 14 enfants dont 9 âgés de moins de 5 ans se trouvent parmi les victimes de ce massacre. Les atrocités ont été commises vendredi dernier au village de Tumbo, dans le nord-ouest anglophone. Des hommes armés ont, pour une raison inconnue, ciblé ces personnes, a-t-il précisé.
L'invité.
Les femmes albinos lèvent la voix et dénoncent la discrimination dont elles sont souvent victimes sur le plan du travail, de l'éducation et du mariage. Se confiant Radio Kapi, ces femmes membres de l'Organisation pour le bien-être des albinos du Congo, OBAC, sensibilisent les autres femmes albinos à avoir un mental fort pour faire face à cette triste réalité. Divine Faïla, porte-parole de l'OBAC, est notre invitée, s'entretient avec Jean Gandou.
Divine Faïla, bonjour.
Bonjour.
Quels sont les types de discriminations que les femmes albinos rencontrent dans les milieux de travail?
Quand on est femme, on est sujet de beaucoup de discriminations et à cela s'ajoute le handicap lié à la peau. Dans le travail ménager, aucune personne ne voudra engager une femme albinos pour lui rendre un service du genre. Les femmes aussi intellectuelles rencontrent le même problème. Mais la discrimination, nous sommes en train de la vivre dans tous les domaines de la vie.
Et sur le plan du mariage, sur quel type de discrimination?
C'est pas toutes les familles qui accepte que son enfant lui amène une femme albinos. Lors de la présentation, ça pose déjà problème. C'est la maman qui va dire, en tout cas, je ne voudrais pas de cette fille vu qu'elle est albinos. Il y a des spéculations selon lesquelles l'albinisme serait une source de malédiction. Nous n'avons pas besoin de porter cette charge sur nous. Il serait mieux que vous puissiez avoir un regard ailleurs. Cela préjudicie plus la vie des femmes albinos. C'est pourquoi nous sommes en train de sensibiliser plus l'état mental de cette femme, la préparer déjà à ce à quoi elle doit s'attendre.
Vous ne pensez pas que la femme albinos se victimise un peu plus elle-même?
Quand je me rends compte que je suis déjà albinos, je commence à me fabriquer certains complexes d'infériorité. Vu que je diffère déjà des autres, là c'est un problème. Ce n'est pas facile de surmonter l'état d'albinisme. Même nous qui parlons, nous sommes passés par ce genre de complexes d'infériorité. Quand vous êtes sur les artères, c'est tout le monde qui se moque de vous. Quand vous êtes dans un milieu où il y a beaucoup de gens, tout le monde vous critique. Cela donne une certaine manière de se comporter au sein de la société, mais c'est à l'issue de beaucoup d'efforts que nous comprenons que nous sommes pareils et que nous pouvons lever la voix aussi. C'est ainsi que nous nous rendons compte que la vie commence à nous sembler un peu facile, mais ça a toujours été un problème au début.
Ne pensez-vous pas aussi que tout devrait commencer en famille?
Nous martelons d'ailleurs là-dessus par rapport à tout ce que nous faisons comme sensibilisation. Pour vous parents qui avez des enfants albinos, le mieux serait de préparer déjà leur mental, leur dire déjà que vous n'êtes pas différent des autres. Ce n'est pas ce que nous remarquons chez beaucoup des parents ayant des enfants albinos. Il y a une certaine priorité chez les non-albinos. Un parent qui privilégie un non-albinos au détriment de celui qui est albinos parce qu'il se dit que vous qui êtes albinos, vous avez déjà un problème de vue, vous avez déjà un problème problème de l'intégration, un problème de la peau, donc je n'aurai pas gain de cause lorsque je dois plus investir en toi. Et l'albinos reste à son triste sort. Ce sont des problèmes que nous sommes en train de relever au sein de l'organisation et nous sensibilisons plus les parents. Parce que si les parents parviennent à sensibiliser plus l'enfant, à l'instruire, je ne pense pas que ce dernier aura des problèmes dans la société. Donc tout commence par la famille et la société vient au second plan.
Mais nous voyons très souvent que les albinos ne se regroupent qu'entre eux. Est-ce que ce n'est pas une manière de refuser l'intégration?
Nous sommes en train de lutter contre la discrimination. Nous n'allons pas non plus la favoriser au sein de la structure. Albinos ou non-albinos, vous qui avez les soucis de voir cette catégorie émerger, les portes ont toujours été grandement ouvertes. C'est pourquoi nous sommes en train de faire certaines activités sur le plan culturel, par exemple, où une fille albinos peut se permettre de défiler devant la masse, juste pour qu'elle se sente aussi au même pied que tous les autres.
Quel appel vous lancez aux autres albinos, notamment les femmes, en rapport avec leur intégration sociale?
Particulièrement aux femmes, je vais leur demander de pouvoir être plus éveillées en tant que femmes. C'est vrai, nous sommes en train de militer pour la défense de nos droits. En tant qu'albinos, en tant que femme albinos, je me dis, je vais plus marteler sur le droit à la santé, parce que c'est un droit. Toi qui es femme, étant donné que tu es albinos, tu es déjà candidat potentiel au cancer de peau. Et moi, je me dis, comment tu peux rester chez toi, bras croisés, tout en n'ayant aucune ambition en tant que telle. Donc, si nous avons la vision de l'aigle, nous pouvons aller plus haut. L'albinisme ne peut pas constituer un frein, surtout chez la femme albinos. Moi qui vous parle, je suis albinos. Je me suis acceptée en tant que telle. Voilà que je prends la décision de sensibiliser. Et je pense qu'en tant que femme, nous devons savoir qu'est-ce qu'on peut apporter au sein de notre communauté. Juste un apport par rapport au droit à la santé, savoir comment relever ces problèmes, ça sera très très consistant. Par rapport à l'intégration, par rapport à l'éducation, moi je me dis, le cheval de bataille pour cette année, c'est le droit à la santé. Parce qu'on est en train de mettre de l'argent dans le paludisme, dans la tuberculose, dans tout cela. Mais l'albinisme, jusque-là, est une maladie orpheline.
Divine Faïla, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Merci également à vous qui avez suivi ce journal. Excellent après-midi à vous tous.